Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Benjamin Coria, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés, auteur du bien commun Le climat et le marché, réponse à Jean Tirole. Édition Les liens qui libèrent, Sylvain Aurébi, le président d'Orientis, l'été Cousmi. Christian Pourriot, le PDG de Micropole. Vous vouliez réagir, je vous ai coupé la parole avec la pub. J'ai des réactions. La hausse des marchés, ça ruisselle sur les gens qui investissent en bourse. Chaque Français devrait le faire, me dit cet auditeur.
Ah oui, bien sûr.
Bah, c'est pas votre avis, mais bon, voilà.
Oui, avec le SMIC, on va investir en bourse. Et en dessous du SMIC.
Et certains qui considère qu'on est déjà à un niveau de fiscalité suffisamment élevé. Il ne faut pas en rajouter. Vous voulez réagir, Christian Pourriot, sur pas de sujet tabou, la fiscalité n'est pas sujet tabou.
Qu'on dise qu'il n'y ait pas de sujet tabou, moi je veux bien le dire ça. Effectivement, quand on réfléchit à 360, j'entends le point. Enfin, rappelons que la fiscalité en France, alors sur certains sujets, elle est revenue au niveau européen, sur d'autres, elle ne l'est pas. Micropole est une entreprise de 95% de cadres, les cadres sont payés plus qu'en Allemagne. Voilà, c'est une réalité, si j'ose dire. Oui. Donc dire qu'on veut repartir dans une logique où on va réaugmenter les fiscalités alors qu'on est déjà les champions d'Europe ou en tout cas les anciens champions d'Europe, je suis désolé, mais on marche sur la tête. Quoi. C'est pas là où il faut agir. Le déficit, il est lié à quoi ? Il fait que... Alors déjà, pareil, chef d'entreprise, okay, vous faut réduire vos charges. C'est quoi la charge principale qui pèse sur les comptes publics du bailleur général ? Bah, c'est la partie sociale, si j'ose dire. Alors, quand je dis ça, il ne s'agit pas de dire qu'on va la réduire, la détruire ou je ne sais pas quoi, mais il faut effectivement la retravailler. Il y a un débat en ce moment sur le sujet des transports santé. Hein, les taxis font grève. Je crois que ça coûte 5 milliards par an.
5,7 milliards. Et ça a considérablement augmenté, d'ailleurs.
J'ai plus en tête le comparatif par rapport à l'Allemagne pour faire des comparatifs de pays similaires, mais on est deux fois plus cher.
Là, on est tous d'accord.
Non, mais voilà, mais c'est une rente qu'on a installée. Vous installez une rente pour l'éteindre, c'est compliqué.
On divise par deux, on passe de 5 à 2,5. Ça fait 2 milliards et demi. Pof. Enfin, je veux dire, pof.
Oui, on est d'accord là-dessus.
Voilà, c'est le genre de choses. On parle du CPF. Alors, le CPF.
100 euros de forfait pour utiliser son CPF.
Voilà, c'est l'invention de la française. Alors, sans à vérifier, mais je pense qu'on doit être un des seuls pays dans lequel la formation est gratuite, enfin ou était gratuite. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Alors qu'on fasse ce genre de choses pour les populations en difficulté, les gens en réinsertion, etc. Fine, pas de problème. Mais là, tout le monde y a droit. Et on a des effets d'aubaine, on vous paye le permis moto. Mais enfin, c'est quoi ? Donc, c'est la collectivité qui paye le permis moto à tout le monde. Je suis motard, hein, donc j'aime beaucoup la moto. Hein. Tranquille sur le sujet. Mais... il y a tout un tas de sujets où on doit agir. Alors, il n'y a pas un... Vous savez, c'est comme, encore une fois, je fais le comparatif entreprise, je pense que Sylvain me comprendra, quand on veut agir, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie, ça serait trop simple. Il y a 20 boutons, 30 boutons, 50 boutons, mais c'est un état d'esprit général, et si on se bouge et qu'on prend les vraies mesures, on va y arriver. Et dernier point, là, récemment, on disait la SNCF est est positive en résultat. Oui. Mais c'est totalement faux. Là-dedans, il y a 30 milliards qui sont des subventions faites par les collectivités locales.
C'est 20 par an. Collectivité État. Voilà. Oui, mais c'est normal que la SNCF.
Je dis pas le contraire, mais si je veux dire, ne disons pas qu'on est en déficit, ce qui permet après, d'ailleurs, aux cheminots de dire, faut qu'on distribue les bénéfices. C'est nous tous qui payons ce sujet. La SNCF est en déficit chronique. Vous voyez, il y a tout un tas de sujets. Donc, de dire qu'on peut pas arriver à trouver 10, 20 ou 30 milliards, c'est compliqué, difficile, ça fera effectivement des réactions fortes, mais on peut y arriver si on a la volonté politique, effectivement.
Sur le CPF, ça vous choque qu'il y ait 100 euros de reste à charge ?
Mais non, pas du tout, au contraire. Enfin,
parce que
ça me semble évident.
Certains disent, mais quand on a une politique qui marche, même si elle a des effets d'aubaine, eh ben, il faut continuer parce qu'elle fonctionne. Alors, l'apprentissage coûte très cher, seulement ça fonctionne. Est-ce qu'il faut aller mettre des règles, des freins, des empêchements ?
Mais en quoi est-ce que la formation marche aujourd'hui, franchement ? En quoi est-ce qu'elle est efficace ?
Le CPF, aujourd'hui, il est sollicité. Il y a plus de 2 millions de CPF par an.
Ça coûte c'est gratuit. Mais est-ce que ça donne des effets positifs
sur l'économie ? C'est qu'il y a des effets.
Est-ce que les gens sont mieux formés ?
Il y a des effets collatéraux qui ne sont pas ceux qu'on
aujourd'hui. La majorité va encore une fois sur des permis moto ou d'autres choses.
Il y a le permis moto, il y a le fait d'aller apprendre des langues étrangères un peu
un peu...
Exotique.
Non, mais on peut pas à la fois...
Qu'en pensez-vous, Benjamin Coria? Est-ce qu'il faut entraver, parce qu'il y a des effets de bail d'une politique publique qui produit des résultats?
Juste d'un mot par rapport à ce que vous dites, j'ai pas de désaccord. Hein, ça veut dire que quand il n'y a pas de tabou, il y a tabou sur rien. Oui. On est d'accord, mais il faut qu'il y ait des tabous sur rien. Donc, ouvrons tout le spectre. Bon, on va pas reprendre le débat, mais c'est pour dire, c'est pas là-dessus qu'il y a un désaccord. Moi, je suis pas un malade de dire il faut augmenter la fiscalité. Je dis, il n'y a pas de tabou sur la fiscalité, comme il n'y en a pas sur d'autres choses. Bon, alors maintenant, par rapport au CPF, on peut pas, c'est ça qui va pas, on peut pas être dans la situation française, dans laquelle il y a un stock de main-d'œuvre, hein, j'emploie l'expression qui est parfaitement non qualifié, qui est largement inemployable, etc., et mégoté sur les questions de formation. Il faut en faire beaucoup plus sur la formation.
C'est la position de ceux qui disent il y a de l'effet d'aubaine, ça coûte cher, mais il faut y aller.
Et c'est de l'économie. Alors, effectivement, il peut y avoir des effets d'aubaine, comme il y en a dans toutes les politiques publiques, mais toutes, de la première à la dernière.
C'est comme l'apprentissage.
Il y a 7 milliards d'effets d'aubaine sur le crédit d'impôt recherche. Il n'y en a peut-être pas 7 milliards.
Vous allez un peu loin,
mais il y en a... Non. Mais comme
tout... Il y en a de l'effet d'aubaine.
Mais comme
Philippe Aguillon l'a mis en lumière.
Toutes les agences qui se sont penchées sur le crédit d'impôt recherche, je pense qu'il est extrêmement mal foutu et que c'est des cadeaux faits de manière parfaitement indue. Pour partie, hein.
Dans certains cas, probablement. Et c'est probablement corrigeable.
Donc, oui.
Sans tuer la mesure.
Oui, il y a des effets d'aubaine. Essayons de les corriger. Mais c'est pas au nom des effets d'aubaine qu'il faut supprimer des politiques. Notamment, je le répète, dans des domaines comme celui de la formation, où la France a une performance catastrophique, si on en juge par la quantité de gens insuffisamment
formés. Oui, vous avez raison.
Les chefs d'entreprise ne peuvent pas se plaindre.
On passe la parole, Benjamin.
D'accord.
Il faut que la parole passe.
Ils sont toute la journée qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée.
On a un sujet, Antoine Fouché.
Moi, je voudrais réagir sur le sujet d'effet d'aubaine. Qu'est-ce que ça veut dire, effet d'aubaine? Parce que, ayant été président de Croissance Plus, ayant beaucoup œuvré au CBNF, j'ai vu plein de cas. Effet d'aubaine, pour moi, c'est quand on fait une loi. Et il y a 5%, 10%, 3%, enfin un pourcentage, mais minime, qui effectivement, lui, crée des effets d'aubaine qui ne sont pas vertueux, si je veux dire, et qu'il faudrait supprimer. Mais ça, sur ce point-là, soyons clairs, on n'y arrivera jamais. Sinon, on ne fait aucune loi. On fait une loi tellement verbeuse qu'on n'arrivera à rien faire du tout. Donc l'effet d'aubaine, il faut l'admettre, par principe. Il ne faut pas chercher à le contrer ou lutter, mais c'est comme ça.
Il faut le quantifier aussi.
Il faut le quantifier.
Sur le CIR...
Moi, je reviens sur le CPF. Quand on revient sur le sujet, il faut dire, le CPF, si c'est pour former des gens, et j'en rejoins Benjamin, ceux qui sont en recherche d'emploi, en reconversion, en difficulté, mais très bien, allons-y. Et effectivement, il faut accélérer là-dessus. Mais les chiffres tels que je les ai en tête...
Les chômeurs ne sont pas concernés par les 100 euros. Hein.
Oui. Mais les
salariés.
Ouais, ça, c'est un point important. Mais regardons les chiffres du CPF aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est plus un effet d'aubaine. C'est 80% du CPF qui, en fait, est utilisé dans des choses, certes, forme sympathique. Encore une fois, je ne vais pas boucler sur le permis moto, mais c'est quand même pas ça, globalement, qui va changer la santé économique de la France. Donc là-dessus, c'est plus un effet d'aubaine, c'est une diversion, un détournement des fonds publics qu'il faut réguler. Donc, est-ce qu'il faut supprimer le CPF? Non, absolument pas. Il faut simplement l'orienter vers les gens qui en ont vraiment besoin, ce qui veut dire le réduire. Et puis après, si vous voulez, le CPF pour les gens qui ont un certain niveau de revenu, mais il n'y a pas de CPF, point barre. Enfin, à quel titre un cadre, on va lui payer son permis moto? Ça n'a aucun sens. C'est la même chose que quand on disait l'essence a été réduite de 20 centimes au moment de la crise du pétrole pour l'ensemble des Français. Ça n'a pas de sens.
C'était en 2022. Enfin,
je pense que c'est quand même des choses assez logiques. Donc ce n'est pas un effet d'aubaine.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Bon, il y a Jean-Pierre qui me dit qu'il y a plein de formateurs du CPF qui ne sont pas bons. Voilà.
Qui sont
pas des bons formateurs.
La formation est gratuite depuis des années et on manque de formation en France quand même. Donc,
un mot sur les dividendes. 1660 milliards de dollars au niveau jamais atteint, mais les résultats des entreprises étant à des niveaux à peu près records pour les grands indices. Ce chiffre appelle une réaction particulière?
Non, parce que les dividendes ont augmenté de 8,7%, si j'ai bien lu. Les résultats ont augmenté à peu près d'autant. Donc le dividende est stable en pourcentage des résultats. résultats.
C'est à peu près ça la conclusion.
Voilà, en gros, il n'y a rien de nouveau. Qu'on paye trop de dividendes, Benjamin va nous le dire, peut-être, oui. mais en tout état de cause, l'augmentation des dividendes de 2023, elle est le reflet pur et simple de l'augmentation des résultats.
Non, mais,
voilà. qui est moindre que l'augmentation de la bourse, qui est autre chose, qui a augmenté de le CAC a dû prendre 15 ou 16%, le S&P a pris 25%, le Nasdaq a pris 40%, et les dividendes n'ont pris que 8%. Alors, que la politique de dividendes ne vous convienne pas, c'est une chose, mais le fait que les dividendes augmentent de 8% cette année, c'est pas un sujet.
Il faut quand même se décorréler un peu des grands indices qu'on prend comme
photographie des entreprises.
Non, parce que les grands indices, il y a un effet. Le CAC 40, c'est un club de stars, tu vires les mauvais tous les 6 mois, tu fais rentrer des bons.
Prenez le S&P 500, il a pris 25%, ouais. C'est pas que les stars.
Un mot là-dessus, peut-être Benjamin Correa, mais.
Non, mais juste par rapport, il a pris 8%, machin et tout. Quand vous êtes au dernier escalier avant d'arriver sur la terrasse, effectivement, il n'y a plus qu'un escalier, hein, je veux dire. La question, ce n'est pas celle-là. La question, c'est le taux le pourcentage. On est à plus de 70% profits qui sont versés sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Faites le calcul.
Alors là, il y a eu des cas.
Je parle de la France, hein. Pas de la France. 70%. On refera le calcul. C'est ça la vraie question.
C'est pas le chiffre.
Il
y a eu des cas d'entreprises qui étaient à ce niveau-là, mais pas toutes.
Il y a non seulement les dividendes, et encore une fois, je répète le fait qu'ils augmentent de 8%, comme vous dites. Il faut voir d'où ils partent. Bon, voilà. Je veux dire, mais c'est le taux qui importe. Bon, et il y a les rachats d'actions derrière, c'est-à-dire destruction
un autre
de valeur.
Sujet, le rachat.
Oui, mais c'est le même.
Non, c'est pas le même.
Mais si, parce qu'ils ont monté exactement en même temps. Bon,
rachat d'actions.
Le rachat d'actions,
on ne peut pas les mettre ensemble. C'est la même idée. C'est pour permettre aux détenteurs de titres passez-moi l'expression, mais de se gaver encore davantage.
C'est pour ça que
de la destruction de valeur.
C'est pour ça que moi, cet auditeur qui.
Alors, et l'effet. Ce formidable de tout ça, c'est une économie à 0,8%, un chômage qui monte. Bon, on peut pas ne pas rapporter les deux choses.
Ce que dit Benjamin, c'est que si on distribuait pas de dividendes, l'économie serait à plus de
0,8%. Ce que dit Benjamin, c'est que lorsque on n'avait pas ce taux de distribution des dividendes, c'est-à-dire les 30 glorieuses, etc., on a eu les meilleures années du capitalisme. C'est ça qu'il dit, Benjamin. Bon. Ça veut dire qu'on retombe sur les problèmes de fiscalité, de très hauts revenus, etc. Les périodes pendant lesquelles il y a des impôts proportionnels, etc., ont été les meilleures du point de vue de la croissance capitaliste. Voilà,
Je ne pense pas que c'était lié aux impôts. C'était une période où l'économie mondiale était florissante. Ouais. C'était une période où on investissait énormément.
Laissez-le finir.
Ce ne sont pas les impôts. Moi, vous liez ça aux impôts, la haute croissance.
Je lis un ensemble. En tout cas, dont la
fiscalité. Où vont ces dividendes?
La plupart, c'est quand même détenu par des fonds d'investissement qui expliquent d'ailleurs que l'essentiel de l'argent. Faut rappeler que le dividende, quand vous versez 2 euros de dividende sur une action qui vaut 100, l'action elle tombe à 98 quand même. Hein. Ce ne sont pas des étrennes. Voilà, ça va gréver d'autant la valeur du titre. La plupart des fonds expliquent que, d'ailleurs c'est parfaitement renseigné, tout ça est totalement réinvesti et irrigue l'économie.
Et ça irrigue aussi l'économie française, c'est ça que je veux dire.
C'est pour ça que c'est
certains. 0,8%, elle est magnifiquement irriguée.
Certains considèrent que ce genre de chiffres devrait nous inciter à imaginer qu'il pourrait y avoir un financement alternatif au système de retraite par de la capitalisation.
Je ne suis pas complètement hostile à cette idée. Dans les fonds de pension, je ne sais pas la part des fonds de pension américains, norvégiens ou ce que vous, qui sont dans les titres du CAC 40.
Principalement des fonds. Il y a du fonds de pension, il y a du fonds souverain. Les gros détenteurs. Il y a du français aussi, quand même. Par exemple, les premiers actionnaires de Total Energy, ce sont les salariés. Ouais. Les chiffres. Vous avez vu comment Total Energy a donné toute une série de chiffres hyper précis pour tuer le traditionnel Total bashing le jour de ses résultats. Parce que les résultats de Total, c'est l'émotion. Il y a une boîte qui crée l'émotion, c'est Total. Ils ont donné tous les éléments de participation, d'intéressement, de dividendes perçus par les salariés actionnaires. Waouh! Ça a calmé tout le monde ça a duré moins de 24 heures.
Ça vous a convaincu.
Ben, ah, j'ai trouvé que les chiffres étaient convaincus. Ah,
ben, ça vous a pas convaincu. Leur zéro carbone à 2050 m'a convaincu. Ah, ben, c'est de la poudre aux yeux.
Je ne suis pas de votre avis.
On n'a pas le temps.
Je suis convaincu, Benjamin Coria, qu'on ne réussira pas la transition écologique en se passant de
la, j'allais dire la propagande, la communication de Total sur l'environnement, mais c'est honteux, honteux.
Vous pouvez être. Moi, je suis persuadé qu'on a besoin des milliards des groupes d'énergie pour réussir à la
transition. Ah oui, moi aussi, mais et pas en leur laissant.
Alors, on est d'accord, on les taxant.
Eh ben, ouais, bien sûr. Bon, c'est pas eux qui vont la faire, la transition. Bon, elle va se faire contre eux, c'est évident.
Bon. C'est pas eux qui vont la faire, elle va se faire contre eux.
Bah bien sûr. Non, mais bien sûr. Et vous comptez sur Total pour faire la transition ?
Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors on va taxer Total à un niveau nettement plus élevé que Chevron.
Non, mais il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je dis que la transition écologique se fera contre les grands groupes pétroliers et contre les banques. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'alliance des groupes pétroliers et des banques qui mettent la planète à feu et à sang. Voilà.
Ouais, enfin, je ne suis pas à la place de Patrick Pouyanet, mais c'est quelqu'un de très intelligent, et il sait très bien qu'à une échelle de temps alors assez forte, les revenus du pétrole vont diminuer, soit parce que les ressources vont devenir de plus en plus chères, etc., soit parce qu'il y aura un bouffe très important sur l'électrique, etc. Donc, est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, ils essaient de dire quel va être Total à 20 ans, et j'ai besoin de la faire pivoter, j'en suis persuadé. Enfin,
je pense également.
Il y a qu'à voir. Travaille sur le sujet.
Rentrer dans ces subtilités. Il faut regarder ce qu'ils font.
C'est une chance pour la France. C'est une chance pour la France d'avoir un champion pétrolier mondial. Et ça, c'est un point très important. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On ferme Total. Enfin, c'est pas ça non plus le sujet, quoi, je veux dire.
Mais il faut pas faire de caricature.
Ne faisons pas de caricature.
C'est pas Total qui va faire la transition écologique.
Ah,
il y a des analystes extrêmement sérieux, y compris d'entreprises, qui expliquent que le plan de Total sur les questions vertes est honteux. De mystification dans ce
mystification.
C'est pas moi qui le dis, c'est des cabinets conseils.
La guerre économique. On va pas trancher le sujet de savoir. Moi, je pense que les pétroliers, on aura besoin de leur argent pour investir là-dedans et que.
Oui, moi aussi, mais pas à leur laissant.
C'est là où on n'est pas forcément d'accord. Parce que je suis un peu de l'avis de Christian. Je pense que ce sont quand même des managers éclairés qui savent à peu près où ils. Qui savent à peu près où ils mettent les pieds. Vous avez vu ce que font les Saoudiens de l'argent du pétrole? Ils investissent dans la transition sur leur sol. Ils sont pas en train d'investir pour aller chercher du pétrole.
C'est une autre question.
Ah ben oui, mais non, mais ça, c'est parti. Ça participe à peu près de la même logique. Bon, guerre commerciale. L'Europe veut taxer les voitures chinoises. Et du coup, les Chinois veulent taxer le cognac.
Eh ben voilà, c'est les conneries habituelles du protectionnisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je suis de votre avis.
Ben voilà, c'est vieux comme le monde. Pourquoi est-ce qu'on est protectionniste en pensant que les autres vont pas l'être ? Enfin, voilà. Donc vous taxez les voitures chinoises, ils taxent les alcools français. End of the game. Ouais, le truc, c'est que ça marche comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez pas espérer taxer tous les gars qui vous vendent des trucs et puis leur dire, mais moi, je vais te vendre des produits, puis tu vas pas les taxer. Non. Où les Chinois sont plus forts que nous, ou c'est nous qui sommes les plus forts. Aujourd'hui, qui est le plus fort, on ne sait pas. Mais en tout cas, on peut pas. C'est bilatéral, les relations internationales aujourd'hui. C'est plus un monde magnifique où on se met tous d'accord pour faire.
Ça l'a rarement été.
Oui, mais donc aujourd'hui, on est face aux Chinois. On les bloque, ils nous bloquent. Point final. Et c'est pareil avec les Américains. Donc avec l'IRA, on n'a pas été contre eux. On s'est écrasé, on n'a rien fait, et on a peut-être eu tort. Mais en tout état de cause, cette histoire de protectionnisme est absurde. Elle a toujours été absurde. Elle ne mène nulle part. Elle mène plus à la guerre et à la faillite que la prospérité.
Mais l'histoire vous donne raison, Sylvain. Mais l'histoire se répète à tous les coups.
Pourquoi ? À tous les coups. Il y a un moment, il faut arrêter ces conneries.
Alors moi, je vais pas être complètement...
Christian Poyot.
Avec mon ami Sylvain. Est-ce qu'il faudrait supprimer le protectionnisme ? Oui, bien sûr, si tout le monde avait les mêmes règles, les mêmes normes, etc. Force est de constater que c'est pas le cas. Parce que les voitures françaises, quand elles rentrent en Chine, elles sont taxées à 15%. Les voitures chinoises, quand elles rentrent chez nous, elles sont à 10%.
À 10%.
Ça, c'est le premier point, c'est la taxation.
Il y a une différence.
Deuxièmement, on sait très bien que les constructeurs chinois qui sont en surproduction, parce que le marché chinois s'est réduit et qu'ils avaient investi très fortement, sont subventionnés par l'État, tout le monde le sait, et donc en plus, ça leur permet d'être plus agressifs sur les prix.
Mais donc, du coup, le consommateur français, il paye moins cher grâce au gouvernement chinois.
Peut-être, mais...
C'est la position Jean-Marc Daniel.
Je parle bien sûr, mais c'est une réalité.
Oui, mais
c'est une réalité.
Je ne parle même pas du côté écologique.
Si vous faites du protectionnisme,
nourriture chinoise, c'est pas bon.
C'est le consommateur qui paiera à la fin.
Dans ce cas, ça va détruire toute notre industrie. Et qu'est-ce que font les Américains? Bah, effectivement, avec l'IRA, ils luttent contre ça en attirant les capitaux. Donc, le protectionnisme, moi, c'est pareil, c'est un mot qui me, à la base, qui ne me convient pas. On est bien d'accord. Mais force est de constater qu'on est face à des pays qui, eux, ne jouent pas le jeu. Et ce qu'on demande toujours en tant que chef d'entreprise, c'est laissez-nous agir, mais on a tous la même règle. Et puis après, que le meilleur gagne. C'est un peu ça le sujet. Et là, pour le coup, la concurrence est faussée. Les constructeurs automobiles français, européens, etc., partent avec des sacs à dos dans le dos chargés de kilos et de tonnes, si j'ose dire.
Et de normes.
Et de normes. Ah, mais bien sûr. Mais alors, tout à fait.
Hein. Et de normes européennes.
Donc ça détruit encore plus le sujet. Mais face aux Chinois, on ne peut pas se permettre d'être naïf quand même. Quoi, si je
suis d'accord, mais vous prenez les deux constructeurs qui vendent beaucoup en Chine, Mercedes et Volkswagen, ils défendent l'idée.
Ah, ben bien sûr.
Ils sont contre l'idée que l'Union européenne aille au bout de son projet.
Ben, on voit bien
tandis
pourquoi.
Que les Français sont plutôt. Ben voilà. Ben oui, mais la réponse, c'est en fonction des intérêts de chacun.
C'est les États qui doivent prendre la main. C'est pas aux entreprises. Encore une fois, l'État, pour moi, il est chargé de mettre en place un terrain de jeu qui soit équitable pour les entreprises et dans lequel elles puissent chacun mettre en place leur créativité, leur innovation. Si on a un terrain de jeu où il y en a qui courent avec des chaînes aux pieds, ben, ça devient compliqué quand même.
Les deux arguments s'entendent, celui de Sylvain et le vôtre aussi. C'est pour ça que l'arbitrage n'est pas évident. Benjamin Correa, par rapport à cette situation. C'est encore l'histoire qui se répète. Il a raison, Sylvain.
Non, mais moi, le protectionnisme non plus, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, ce que vous avez dit est parfaitement juste. La question, c'est qu'on n'est ni en protectionnisme, plein pot, ni libre-échange plein pot. De toute façon, on est dans une situation hybride, un peu confuse, dans laquelle, soit à travers les normes, soit à travers les taxes, soit à travers les financements directs, les aides publiques, les conditions de concurrence idéales, entre guillemets, de toute façon, ne sont respectées nulle part.
Donc, c'est un objectif, pas inatteignable.
Donc, la vraie question est probablement inatteignable. Donc, la vraie question, c'est, puisque de toute façon, tous les pays recourent d'une manière ou d'une autre à des taxes, à des financements.
C'est la vérité.
Sur quoi le fait-on? À quel moment? Qu'est-ce qui doit être défendu, protégé, au prix de certaines conséquences, bien entendu, et rétorsions? C'est ça la question. Bon, donc, sur la question de la voiture électrique, compte tenu de l'enjeu qu'il y a là derrière, moi, ça me semble très difficile qu'on fasse rien et qu'on laisse le marché européen être complètement envahi par les voitures électriques. Parce que c'est une boutade, hein, quand vous dites on va payer moins cher les voitures électriques. Oui, à condition d'avoir un emploi, hein. Je veux dire, si on commence par détruire tous les emplois liés à la voiture, il y en a beaucoup qui ont des voitures thermiques et qui n'auront jamais de voiture électrique. Donc voilà, ma réponse il y a des choix stratégiques, voilà, c'est tout. Et le monde ne sera jamais ni blanc ni noir, de libre-échange, de protection.
Il faut accepter qu'on vendra moins de vin et de produits liquoreux en Chine et qu'il y aura moins d'emplois en France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Il y en aura plus dans l'automobile.
Il y en aura moins l'alcool. Elle va savoir à la fin qui va gagner.
Je ne dis pas qu'il faut défendre cet accord-là. Il faut avoir une pensée stratégique sur qu'est-ce qu'on défend et qu'est-ce qu'on défend moins. Tout.
Alors sur l'automobile, c'est avec Carlos Tavares qui est l'un des premiers quand même à avoir tiré le signal d'alarme, avait d'ores et déjà expliqué que les doctrines européennes sur la transformation du thermique à l'électrique, c'était un Buy China Act. Et en fait, il avait très probablement raison.
Là, vraiment, le sujet des normes qui pèsent, on en a parlé, mais sur les voitures, etc., est un poids à nouveau colossal. Donc, on se tire des balles dans le pied, grande dimension.
Oui, sauf si, moi, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, sauf si un certain nombre de normes servent à interdire, qu'on s'impose, servent à interdire l'importation. À ce moment-là, la question des normes devient une question beaucoup plus stratégique et plus seulement un poids.
Ah ben c'est le protectionnisme américain, c'est du protectionnisme par les normes, justement, du protectionnisme par les droits de l'homme.
Si les normes sont utiles, elles ne le sont pas toutes, en particulier en matière environnementale ou sociale, et qu'ensuite elles servent à se protéger, ma foi, on peut en discuter.
Alors dans la liste de questions que nous envoie Nicolas Nose à 7h du matin, qui fait 8 pages environ, dévoile un peu les coulisses de l'émission.
Il est long, le SMS.
Il y avait le sujet d'une ouverture d'une mine de lithium en Auvergne.
Oui,
c'est exactement le même problème.
Imerys doit exploiter du lithium dans une mine existante au cœur de l'Auvergne, et le débat public pour savoir si on y va ou si on n'y va pas a débuté hier. Et vous imaginez que, eh bien, il y a tous les avis qui circulent.
Mais en fait, on parle de la même chose. Si on est puriste, entre guillemets, on va dire, ben non, on ne fait pas cette usine de lithium parce que, d'une manière ou d'une autre, même si on est très précautionneux, ça aura un d'impact qu'on espère le plus réduit possible. Forcément. Sur l'environnement. Il ne faut pas se raconter de bêtises.
Même bon. Si Imiris est
donc, on ne la fait pas. Très bien. Mais à côté de ça, on veut des voitures électriques, on veut tout un tas de choses. Donc, on va faire le lithium. Je crois que c'est le Chili qui a des plus gros producteurs, me semble-t-il, sauf erreur. Donc, on va faire produire là-bas, dans les conditions environnementales certainement plus dégueulasses. Et puis, on va faire le faire venir en train, en bateau, etc. etc.
Et ajouter de la dépendance économique.
Ajouter de la dépendance, etc. Donc, on marche sur la tête. On marche sur la tête, encore une fois. Il n'y a même pas de débat. Il faut l'ouvrir, cette mine. Bien sûr, il faut essayer de prendre le maximum de précautions sur l'écologie. Imposer que lors de la fermeture, mais qui sera dans, je sais pas, 20, 30 ans, etc., il y a peut-être une remise en forme du mieux possible, enfin, qu'on impose un minimum, enfin, des normes environnementales. Mais le fait même qu'on se pose la question, on marche sur la tête, encore une fois.
Ben, le débat est ouvert. Moi, je trouve que cet endroit, ça sent la ZAD à plein nez, là, un de ces jours. Parce qu'évidemment que ce sera pas neutre écologiquement. Ben oui, on peut pas aller exploiter du nickel.
Les ZAD qui vont faire la politique économique de la France. Oui, je crois que ce temps est révolu.
Les Alpes.
Les ZAD ne vont pas faire la politique économique de la France. C'est terminé. On a bien vu qu'ils ont tenté le coup sur la 69, ça marche plus. Ça ne se produira plus.
Ah, moi, je pense que vous allez très vite. Hein. On va voir ce qui va se passer.
Oui, nous verrons.
En tout cas,
mais pas de menace de
sur le lithium dans l'Allier.
On n'est plus dans ce monde-là.
La ZAD de Notre-Dame-des-Landes sur l'aéroport, ils ont gagné. Bon, donc, je pense que là, vous allez très vite.
C'était il y a longtemps, l'aéroport. Les choses ont changé. Et d'ailleurs, c'est de là que c'est parti quand Édouard Philippe a nettoyé cette ZAD, et je crois qu'il ne s'en produira plus. Nous verrons.
Vous êtes très affirmatif.
Ah oui, je suis très affirmatif, parce qu'on a un État français qui est beaucoup plus fort aujourd'hui.
Non, mais la question, c'est pas un État français qui est fort ou pas. Si. La question, c'est quel est l'État de l'opinion publique et de la volonté des Français sur les différents sujets. Ça, c'est pas tranché. On va voir.
Nous verrons. On en reparlera.
Sur les sujets que vous évoquez, on dit toujours qu'il faut décentraliser, donc il faut écouter les gens locaux, si je veux dire. Voilà. Donc, sur les sujets, là, tout le monde est d'accord, les collectivités locales, territoriales, départements, régions, les communes, tout le monde est d'accord. Et c'est quelques excités, pour le dire tel que je le pense, qui viennent mettre, bloquer le processus. Enfin, non, on est dans un état de droit.
Vous parlez de la 69, là, c'est ça?
Oui. Mais sur la 69, c'était pareil.
Non, mais si attendez, sur la 69, il y a toute une série de.
On va pas faire chaque sujet de ZAP, parce que là,
les rapports, on peut en faire de droite et de gauche, des rapports.
On a fini, hein.
Voilà.
Mais bon. Benjamin quand même disait qu'il n'avait pas encore d'avis définitif sur le lithium.
Mais non, parce que je ne connais pas le sujet, je le découvre.
Bon, pour rigoler deux minutes, on peut parler de protectionnisme à l'envers sur le steak végétal. Vous avez entendu parler de cette histoire?
Oui.
Le steak végétal, on n'a plus le droit d'appeler un steak végétal un truc qui n'est pas fait avec de la viande.
Oui.
En France.
Le mot steak.
Ouais. En revanche, les Allemands, ils continuent. Ils peuvent en vendre chez nous du steak végétal. Mais nous, les Français, on n'a pas le droit. Ça, c'est malin.
Ça me rappelle vos histoires d'arômes de thé. Ça me rappelle vos arômes de thé. Vous avez imposé des arômes
interdits
bio.
Interdits en Europe, mais autorisés à tous les pays tiers. Voilà comment on peut être assez con en Europe pour faire des trucs pareils. Et même en France, c'est le protectionnisme à l'envers. On est à l'abri de rien.
Oui, là c'est spécifique à la France. Oui, donc c'est absolument.
Mais on sait sur France. Merci Benjamin Coria, Sylvain Aurébi, Christian Poyot. On se retrouve demain à 9h. Ce sera le jour du Cercle des économistes. Et Stéphane Carcillo sera avec nous. À demain.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.